ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Vous l'avez compris, Dominika sera notre invitée pendant 3 heures durant à l'occasion d'un double événement, la sortie d'un livre intitulé « Fleurs plantées par Philippe » et puis un nouvel album. Et d'ailleurs, nous allons commencer en musique avec « Papier froissé ». Écoutez.
Nous sommes des papiers froissés, des gosses avec le cœur pilé, qui jouent entre eux à se blesser.
L'atmosphère, Dominika commence, on vient d'entendre cette nouvelle chanson, Dominika, un paysage mental, des fulgurances poétiques, une mélancolie très sensuelle, je dirais. On se fait des films en vous écoutant depuis maintenant très longtemps, on s'imagine amoureux quand on est solitaire, on s'imagine encore plus amoureux quand on vit avec quelqu'un. On s'aime, on danse sur vos chansons depuis très longtemps. On vient d'entendre cette nouvelle chanson qui donne des frissons et qui répète à 2 reprises. Nous sommes des gosses avec le cœur pilé, qui échouent à se faire rire et qui aiment à se blesser. Alors, est-ce que tout n'a pas commencé dans l'enfance pour vous, Dominika? Une enfance assez solitaire?
Bonsoir à tout le monde. Oui, c'était une enfance solitaire, pas malheureuse, mais très rapidement le goût de l'écriture, le goût de construire un monde imaginaire. Voilà, c'est affirmé. Il y a eu notamment une période d'assez grande solitude. Avec mes parents, on vivait dans une grande maison au milieu de la plaine Briarde. Et j'avais une...
Paysage que vous racontez beaucoup dans vos chansons, d'ailleurs.
Oui, oui. Il y a une forme d'horizontalité, des fois, dans mes chansons qui découle directement de ce que je voyais. Et j'avais une chambre en haut, à côté d'un grenier, sous les toits, et j'avais cette espèce de c'était un peu le désert des Tartares, quoi. ça, c'est une période vraiment déterminante, oui. Il y a eu 3 années comme ça, où j'étais tout jeune enfant, et où le goût de la musique, de l'écriture en général, enfin, l'écriture même graphique, puisque je dessinais beaucoup, c'est venu de là, d'une forme d'ennui, et puis de nécessité de, en quelque sorte, remplir le vide paysager, quoi, j'ai envie de dire.
Et la poésie?
Ben, la poésie découlait de ça. Après, elle était très liée au disque qu'écoutaient mes parents, et notamment un disque de Brel. C'était chez Philips, le numéro 6, qui s'appelait Les Vieux, et qui m'a marqué énormément, notamment une chanson qui a été fondatrice pour moi, qui est une chanson qui est pas une grande chanson de Brel, mais qui pour moi a été vraiment un point de départ, je crois. Ça a été la Fanette, avec une espèce de mélo, avec une ambiance méditerranéenne dans la musique, et je sais pas.
Donc une chanson récit, une chanson mise en scène de théâtre,
oui.
Presque, une
oui, oui.
Chanson qui nous poignarde le cœur.
Oui, oui, une chanson
c'est
de narration.
C'est ça que vous aviez dans la tête.
Oui. Dans la tête et dans le cœur, du coup. Il y avait vraiment, c'était la narration, c'était le drame, c'était la mélancolie. C'était ce que je ressentais au fond de moi, en fait. La mélancolie, pas le drame. Et puis je pense que tout simplement, on est, bon, ça c'est une idée un petit peu, peut-être un peu usée, mais en même temps qui me semble être très vrai. On est le réceptacle de générations, de drames, de choses qui se véhiculent, dont nous ne savons rien.
Les porteurs de secrets.
Voilà, c'est ça. Et moi, c'est toujours des histoires qui me fascinent, en fait, hein, l'histoire familiale, comme ça, qui se transmettent avec des révélations ou pas, d'ailleurs. Hein, mais je crois qu'on est tout simplement, on est porté par ça. Et je crois que moi, j'ai sans doute hérité de une lignée mélancolique d'ancêtres que je ne connais pas. Voilà.
On écoutait de la musique, on regardait la télévision chez vos parents.
Ouais.
Vous viviez dans un endroit assez isolé, Dominica. Mais dans cette enfance et dans cette adolescence, il y avait aussi l'importance de savoir tenir un stylo, que ça soit pour écrire ou pour dessiner.
Ouais.
Qui vous a donné confiance en vous?
À vrai dire...
Parce que vous étiez gauche, maladroit, pato.
J'étais très très timide, mais par rapport au chant, très rapidement, on m'a donné confiance. C'est-à-dire que ce soit mes parents ou je me souviens d'une séance à l'école. J'étais en CE1, je crois, et une professeure m'avait fait chanter les couplets. Donc j'ai très rapidement été assez désinhibé par rapport au chant lui-même. Et donc ça m'a donné cette confiance-là. Et après, je dirais que je n'ai pas demandé non plus de blanc-seing ou de validation à qui que ce soit. C'était une nécessité, tout simplement.
Donc ça s'est fait tout seul. Le chemin artistique s'est fait tout seul.
Oui, je crois. Oui. Il s'est fait. Il a été porté par des tas de choses. Ces paysages dont je vous parlais. Et puis sans doute ces histoires familiales.
Vous en savez plus sur les secrets de famille?
Non, pas vraiment. Non, j'ai juste appris
une fois. Vous préférez garder la part de mystère?
Ouais, j'ai juste appris une fois qu'il y avait un grand oncle, ou que je sais même plus d'ailleurs, qui s'était évadé de Cayenne, qui était quand même pas commun. Il y a eu un crime passionnel aussi. Donc c'est pas commun non plus, c'est pas dans toutes les familles. Mais tout ça a été évoqué au hasard en regardant des vieilles photos avec un tiers, quelqu'un d'extérieur à la famille, et tout de suite les langues se délient un petit peu dans ce cas-là. Mais j'ai pas cherché à creuser parce que.
Mais vous sentiez dépositaire d'histoires que vous pouviez dérouler.
Bah c'est ce que je me dis aujourd'hui. C'est-à-dire, à l'époque, hein, bien évidemment, je me disais pas ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ça, parce que souvent, on me pose la question de l'origine de cette mélancolie qui court tout le temps. Parce que je crois pas que je sois quelqu'un, socialement, qui soit sinistre, hein, j'espère. Et qui, surtout, je me sens pas triste, je me sens animé de je me sens porté par la vie, par l'envie de rencontrer des gens, de faire des choses. J'ai plutôt de l'énergie, en fait. Mais je crois donc que ça vient bien de quelque part. Donc, si ça vient pas de mon tempérament, ça vient forcément d'origine. Voilà, il y avait cette nécessité d'exprimer ça. Donc,
Vous ne dites pas que votre père était chanteur, amateur, mais chanteur.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il m'a confié qu'il avait chanté une chanson sur scène, et bon, j'étais tout gamin, hein, quand il m'a raconté ça, et tout de suite, pour moi, ça a été comme, vous savez, c'est vraiment la fin, je sais pas si c'est la fin, mais dans Mulholland Drive de David Lynch, où il y a le théâtre, Silencio, avec le velours rouge. Alors pour moi, tout de suite, j'ai vu littéralement un couloir de musique, enfin, un music hall. J'ai presque vu l'Olympia. C'était quelque chose pour moi qui était de l'ordre du rêve. Et en même temps, je comprenais pas. Je disais, mon père est professeur. En même temps, il a été chanteur. Comment est-ce possible de cumuler ou d'avoir ces existences qui me semblaient dissemblables? Donc ça a joué, je pense, dans le fantasme. Du chanteur.
C'est clair. Mais c'est drôle parce que quand on écoute vos chansons, Dominika, on se fait des images.
Oui, bah j'espère bien. C'est fait pour.
Les mots sont faits pour fabriquer des mises en scène, hein, oui, mises en scène cinématographiques comme David Lynch ou des mises en scène de théâtre avec des drames passionnels et une atmosphère d'effroi.
Alors ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est l'idée de...
De perte.
Oui, il y a ces idées-là derrière les chansons. Il y a toujours l'idée du manque. Après, c'est vrai que le fait de susciter des images, c'est le bout du chemin. C'est parvenir à déclencher ça chez l'auditeur. Et de mon côté, je sais que les chansons qui me tiennent le plus à cœur, que j'ai le plus de plaisir à interpréter, c'est celles où vraiment j'ai un cadre, une image très précise, quand bien même elle n'est pas décrite dans la chanson. Donc ça, c'est une espèce de décor complètement fantasmé et intérieur.
Alors, je sais que vous êtes un grand lecteur, je sais que votre imaginaire est nourri par de nombreux textes que vous avez commencé à lire très tôt. Il y a des chansons qui sont inspirées par des auteurs de tous les continents. Parmi ces auteurs, il y a un prix Nobel de littérature que nous admirons infiniment, qui s'appelle Svetlana Alexievitch, vous propose de l'écouter. Elle va parler de l'importance du rythme et du titre dans son écriture. Je rappelle que vous avez notamment écrit une chanson qui s'intitule Une autre vie et qui est inspirée de ce livre magnifique, La fin de l'homme rouge. On écoute Svetlana Alexievitch. C'était le 25 mars 2014.
Вот такие вещи, то есть заголовки должны были быть очень цепкие, очень точные такие и неожиданные.
Un jour, on a demandé à un constructeur d'avion, il avait refusé un croquis, le croquis d'un avion, et il avait dit, cet avion ne volera jamais. On lui avait demandé pourquoi, parce qu'il n'est pas beau. Oui, c'est très important. Et si on parle de mes derniers livres, les titres, les sous-titres sont très importants. Cela traduit quelque chose de musical, un rythme. Je ne sais pas ce que ça donne en français, mais en russe, ça compte beaucoup. Et comme on parle de choses parmi lesquelles nous avons vécu et vivons encore en Russie, pour moi, il était primordial de produire du mystère, un choc avec les titres. Par exemple, le titre où il est question de la beauté des dictatures et du mystère des papillons pris dans le ciment. Ce genre de choses. Il fallait que les titres soient très accrocheurs, très précis et inattendus, incongrus. D'autant plus qu'aujourd'hui, le moderne, grâce à tous ces smartphones, grâce à la mondialisation, a un sens esthétique plus raffiné, une pensée plus acérée. Il fallait que ce soit très bien fait d'un point de vue professionnel. Nous vivons dans un monde plein de belles choses. Cela se reflète dans la littérature. Regardez les iPads comme c'est bien fait. un livre qu'on ouvre, lui aussi, doit être fabriqué selon les mêmes règles, avec la même perfection. Tous ces mondes, ces univers sont liés, le monde des objets, le monde de la technologie dans laquelle nous vivons. La littérature ne peut pas rester à l'écart.
Comment Svetlana Alexievitch a-t-elle pu susciter chez vous une histoire, puis un récit, puis une mise en musique, puis une chanson, Dominika?
En général, quand j'utilise, avec des guillemets, mais quand je m'inspire d'un livre, c'est souvent un passage ou un moment. Et dans la fin de L'Homme Rouge, il y avait une récurrence. C'était les gens se retrouvaient dans les cuisines de façon clandestine pour parler. Et c'était le lieu de la parole, c'était la cuisine. Et ça m'a marqué en fait. Et il y avait aussi c'est aussi un livre qui en fait parle de la fin du communisme et en quelque sorte n'alimente pas ce qu'on a appelé nostalgie, hein, c'est-à-dire la nostalgie du communisme, mais avec quand même cette idée par moment des témoignages qui disent oui, mais par certains côtés on vivait mieux avant.
C'était mieux avant.
Voilà, c'est ça. Il y a cette idée là par moment. Donc je suis parti de ces deux choses-là en fait, l'axe c'était la cuisine, c'était le lieu de la parole et le fait de finalement que en journée, c'est le lieu de la parole nocturne et en journée on était à l'extérieur de la cuisine, il y avait plus du tout, on se croisait sans se regarder, on ne se connaissait plus. Et dans la cuisine on écoutait notamment les radios du monde libre et voilà, tout ce qui nous parvenait, c'était en quelque sorte des vibrations d'un autre monde, d'une autre vie. Et ça joue sur cette idée, la chanson qui s'appelle donc Une autre vie joue sur cette notion tout simplement de d'autre vie. Est-ce que cette autre vie tout simplement était souhaitable, était enviable. Alors c'est pas du tout de ma part une nostalgie du communisme, mais il y a cette problématique dans ce livre.
Ouais, je me suis demandé si ça n'avait pas un rapport peut-être assez lointain, mais rapport quand même avec les engagements communistes de votre père.
Oh, je sais pas. Oui, de toute façon, j'ai été nourri dans une ambiance. Mon père distribuait effectivement. Ça lui arrivait. Je pense pas que c'était tous les dimanches. Hein, c'est pas le souvenir que j'en ai, mais de distribuer l'humanité sur les marchés en Seine-et-Marne, ce qui n'était pas une mince affaire. Ma sensibilité, oui, a toujours été un peu inspirée au départ par la sensibilité politique de mes parents. Et cette idée que le communisme, voilà, c'était le but à atteindre à l'époque, c'est ce qu'on disait dans la famille. Mais je sais pas, peut-être que ça a joué. Mais ces questions, le rapport à l'histoire de la Russie, oui, il y a sans doute l'intérêt que je porte à ces questions-là sont peut-être liés, oui, effectivement, à ces souvenirs d'enfance et à cet engagement.
Ce qui est passionnant chez vous, Dominika, c'est que vous ne savez pas vous-même, et nous-mêmes, nous ne savons pas quand on vous écoute, comment finalement s'est sédimenté dans votre mémoire un fragment d'un texte que vous avez lu.
Oui, oui.
Vous ne lisez pas pour essayer d'adapter un livre et en faire une chanson.
Non, surtout pas. Non, mais c'est vrai
que... Vous lisez parce que vous aimez lire.
Oui, oui.
Point barre.
C'est vraiment ça. Et après, même, c'est des moments où je me défends même d'utiliser, comme je vous disais tout à l'heure, les lectures qui sont inspirantes, mais en même temps, voilà, c'est
ça vous tombe dessus.
Ça tombe dessus, puis ça permet de sortir de sa propre expérience et d'essayer justement.
Et quelquefois, longtemps après la lecture.
Non, généralement c'est très concomitant à la lecture, c'est-à-dire je suis dans l'énergie du texte et qui amène à cette énergie qu'on doit posséder pour être dans l'écriture.
Alors nous avons au téléphone, je crois, en direct, si elle est bien là, quelqu'un qui est votre éditrice et qui vous connaît bien et qui est aussi une écrivaine que nous aimons beaucoup.
Savoir de qui il retourne.
Eh bien alors décrivez-la, parce que comme vous, elle a beaucoup parlé de son enfance, elle a aussi parlé de sa post-adolescence, elle a enduré des drames terribles dans sa vie de jeune femme. Et elle en a fait des livres bouleversants, puis elle a continué l'écriture. Elle croit à l'éducation, elle croit à l'enseignement, elle croit à la force des mots. Je veux parler de Brigitte Giraud, écoutez-la.
Alors pourquoi j'ai voulu publier Dominique ? Bon, ben c'est vrai que quand Jean-Marc Roberts m'a proposé la création d'une collection de littérature chez Stock, qui était la maison où je publiais en tant qu'écrivain, ben j'ai tout de suite pensé à Dominique, parce que je sentais qu'il y avait en lui un écrivain. C'est vrai que les textes de ses chansons portent un univers tellement riche et singulier, il a le sens du détail, il est d'une extrême sensibilité, il a le sens de la phrase, il s'est chopé la lumière, il s'est transformé ça. Et ben, je n'osais pas le solliciter en fait. Hein. J'avais peur qu'ils disent non. J'avais peur d'être déçue. J'avais peur de tout un tas de choses hein, parce que c'est à ce moment-là on se connaissait. Donc c'est vrai que c'est difficile de mêler l'admiration et le travail. Et puis finalement je lui ai écrit. C'était l'été 2008. Alors, je viens de vérifier la date. Hein, et à ce moment-là il était en tournée en Arizona. J'ai eu la chance. Hein, je crois que je suis arrivée vraiment au bon moment. Parce qu'il avait le projet d'écrire un récit autour de son enfance dans la ville de Provins. C'est vrai que c'est un récit qui est devenu Y revenir, qu'on a publié en 2012. Et il était à ce moment-là dans cette ville avec laquelle il entretenait un rapport d'attirance et de répulsion dans sa solitude, dans cette maison, en tant que fils unique face aux champs de betteraves. Et il dit dans ce livre comment l'expérience du champ va lui permettre de trouver sa place. Et puis après, on a publié « Regarder l'océan » qui là dresse plutôt le portrait d'un jeune homme inquiet à qui lui ressemble beaucoup. Et c'est un livre qui parle davantage du collectif, hein, des tournées, du groupe, les nuits d'hôtel, et voilà, c'est un très 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 beau texte également. Et voilà, moi j'ai une question pour toi, Dominique. Bon, bah, comme tu sais, je viens de lire ton très beau Fleur plantée par Philippe, cet hommage qui est si élégant à Philippe Pascal, dont la mort nous a tous bien bouleversés. Et je me disais que l'écriture t'allait décidément tellement bien. Voilà, je voulais revenir sur une chose que tu m'avais dit lors d'une de nos séances de travail où tu étais en train de peaufiner et revenir. Tu trouvais un peu fastidieux ces temps de réécriture pour améliorer le manuscrit. Hein. Et tu m'avais dit qu'on était fous, nous les écrivains, qu'écrire un livre pour toi c'était comme rentrer au couvent. Alors faire un album de musique c'était plutôt jouer au bac à sable avec les copains. Et je voulais savoir si tu avais toujours ce sentiment.
Alors ?
Bonsoir Brigitte. Alors je serais un petit peu moins... Non, le couvent, non.
C'est pas votre genre.
Non, c'est pas mon genre, en fait. On est sorti du... En l'occurrence, plutôt le monastère, mais
Disons que, quand même, et d'ailleurs vous en parlez dans ce dernier livre qui sort ces jours-ci, il y a quand même trois vies. Il y en a sûrement beaucoup d'autres pour vous. Mais il y a la vie en tournée,
oui.
Il y a la vie de la composition et de la création, et il y a la vie de l'enregistrement.
Oui. En fait, c'est des choses qui sont qui à la fois se recoupent et qui sont complètement indépendantes. C'est-à-dire, on n'est pas.
C'est pas du tout les mêmes vies,
les mêmes rythmes. C'est pas les mêmes vies, c'est pas la même énergie.
C'est pas le même corps même.
Alors c'est le même corps, si, mais c'est
en
pas
fait,
les mêmes.
Il se déplace pas de la même manière.
C'est pas les mêmes sollicitations.
Il boit pas de la même manière.
Non, c'est ça. C'est peut-être la différence. C'est le taux d'alcoolémie. Non,
il ne dort pas de la même manière.
Oui, c'est pas la même fatigue, c'est pas les mêmes sollicitations. En fait, on va pas chercher les mêmes choses. Et puis tout simplement, il y a la phase de solitude qui est liée à l'écriture, et puis il y a la phase de la vie en communauté, j'ai envie de dire qu'il y a à la vie sur la route. Donc ça a rien à voir en fait. L'un pour moi n'est pas forcément rattaché à l'autre de façon indissociable. C'est des expériences de vie différentes. Je sais pas si c'est oui ou non la même personne, mais en tout cas c'est des expériences de vie qui peuvent. On peut très bien imaginer partir sur scène sans écrire.
Mais écrire une chanson, c'est pas écrire un livre.
Non, non. Et alors pour répondre à Brigitte, je suis dans un rapport moins doloriste aujourd'hui à l'écriture, parce que c'est vrai que j'apprenais à écrire un livre avec Brigitte. J'ai vraiment appris. Je lui ai remis un premier manuscrit où le livre était enfoui dans ce que j'avais écrit, mais il fallait aller le retirer d'un espèce de bayou, de marais, et de le vraiment élaguer de tous les côtés. C'est ce que j'ai appris en écrivant des textes en prose, c'est l'élagage, ça se rapproche plus effectivement de quelque chose de forme de jardinage, je sais pas, jardinage un petit peu austère. Mais je suis moins souffrant face à et moins. Je pense que je me mettais au départ quand j'ai remis le problème, c'est quand vous avez pour éditrice une écrivaine de la stature de Brigitte, c'est pas évident. C'était pas évident pour elle de me le proposer, et puis moi c'était pas évident de lui faire lire en fait. Donc il y avait aussi, je pense, un rapport de j'étais impressionné tout simplement et j'ai dû. Voilà, oublier en quelque sorte d'être impressionné avant de parvenir à trouver mon texte, ce texte dont elle parlait au départ, y revenir. Et par la suite, par rapport au texte, au dernier texte, la fleur plantée par Philippe, c'est différent parce que, en quelque sorte, je l'ai remis non pas clé en main à l'éditeur Mediapop, mais il n'y a pas eu ce travail. J'ai retravaillé, mais il y avait quelque chose.
Il faut dire, Dominika, que ce texte est bouleversant parce qu'il s'est imposé sans doute à vous après l'annonce terrible de la disparition d'un de vos amis qui a décidé de quitter la vie.
Oui, Philippe Pascal. Alors, Philippe Pascal, qui était peut-être moins un ami qu'une connaissance, et au moment où il a choisi de tirer sa révérence, si j'ose dire, j'étais en relation avec lui, on avait un projet d'écriture en commun, et c'est une semaine, ça faisait, en fait, c'est une histoire de vie un petit peu qui est relatée un parcours sur 40 ans de compagnonnage assez éloigné, assez distant, puisque je n'étais pas intime de Philippe Pascal, mais où il était là. Il a toujours été là, dans un coin de ma tête, ses chansons étaient là, et au moment où il est parti, nous avions le projet d'une écriture en commun. Donc il y a eu un choc, et j'ai ressenti le besoin, tout simplement, dans un premier temps, de en quelque sorte me purger de ce que je ressentais, et sans même savoir si ça ferait vraiment l'objet d'une parution ou d'un texte définitif, en fait.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez la première heure des trois heures consacrées à Dominika, et vous écoutez son choix musical, Meryem Abou Louafa, Breath of Roma. Une découverte pour moi, mon cher Dominika.
Vous allez voir, c'est très beau.
People
Merci Dominique de nous avoir fait faire cette découverte magnifique. On sent bien, à travers votre pratique de la musique, qu'il y a une recherche des sons, il y a une recherche des sonorités, il y a une recherche des nouveaux talents, et que vous formez une sorte de tissu interstitiel qui, sans arrêt, est vraiment des têtes chercheuses pour découvrir non seulement des gens, mais des atmosphères musicales. Comment vous l'avez découverte, cette jeune femme ?
Alors, je fais partie des dinosaures qui achètent encore des disques dans des magasins.
Comme moi.
et qui ont le vice, en plus, d'acheter à l'aveugle sur la foi d'une pochette. Et là, j'ai vu une superbe image. Un visage renversé qui faisait comme qui compose comme un espèce de paysage montagneux. Et j'étais intrigué. Alors, je dirais deux fois sur trois, la déconvenue est au bout du chemin, mais là, pas là. En l'occurrence, c'est un disque que j'ai pas mal écouté depuis un mois, puisque je pense qu'il est sorti au printemps, alors sans doute dans les conditions un peu compliquées, hein, évidemment, et donc qui n'a peut-être pas eu l'exposition qui mériterait à mon goût. Donc c'était l'occasion de partager ça.
Ben, merci pour votre générosité. Cette générosité, elle circule avec de nombreux autres chanteurs, Philippe Catherine, Bertrand Belin, mais aussi Étienne Dao. Mm-hmm. Eh bien, écoutez, figurez-vous que je l'ai eu au téléphone. Ah. Il a des petites choses à vous dire, on l'écoute.
Très bien, avec plaisir.
Ça a commencé comment, votre histoire ?
Alors, j'ai rencontré Dominique pour la première fois par l'intermédiaire de son premier album. Et quand il est sorti, vraiment, il était tellement singulier qu'il avait cette voix comme ça, assez aiguë, puis une manière assez théâtrale de chanter, ce qui est assez rare pour l'époque, quand il est apparu dans les années 90. J'ai beaucoup aimé tous ses albums. Et je l'ai rencontré beaucoup plus tard, en fait. Nous faisions un hommage à Jacquenot, qui s'appelait Jacquenot Future, à la Cité de la Musique. Et j'avais fini ma répétition, je suis sorti de la répétition, et je l'ai vu arriver. Et chose qu'on devrait faire beaucoup plus souvent, je fais sa rencontre pour lui dire à quel point je l'appréciais. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, il m'a envoyé des chansons par la suite, trois chansons qui étaient... très bien, mais qui était tellement lui, je ne sais pas comment j'allais me glisser là-dedans. Finalement, j'ai décidé d'en essayer une comme ça pour voir. C'est assez intimidant. Il a un style tellement marqué que je ne savais pas comment je pourrais rentrer dans sa chanson. Et en fait, je l'ai essayé, puis ça m'allait vraiment comme un gant. Cette chanson s'appelait En Surface. Et je l'ai enregistrée d'abord en solo, puis ensuite en duo avec lui dans une version. Avec un quatuor à cordes, qui est une version que j'aime beaucoup. Et ça fait partie maintenant des chansons de mon répertoire qui sont celles qui font partie de celles que je préfère. C'est rarissime que j'écrive pas mes textes. C'est arrivé deux ou trois fois. Et voilà, cette chanson, ça fait partie des rares fois où j'ai emprunté les mots de quelqu'un d'autre pour pouvoir m'incarner.
On peut dire que vous avez un univers commun. En tout cas, on peut comprendre que vous partagez les mêmes choses. Une certaine forme de poésie.
Nous sommes deux oiseaux un petit peu particuliers.
Solitaires.
Sauvages, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et puis, il n'y a pas seulement la voix, il n'y a pas seulement le phrasé, il y a aussi l'idée, je trouve, entre vous deux qui est commune, c'est qu'une chanson, c'est une histoire.
Oui, tout à fait, bien sûr. Ça commence par là. Et là, c'est une histoire d'admiration qui est devenue une chanson. Il avait une idée me concernant, cette idée de la légèreté. Et c'est vrai que pendant toutes les années 80, même si les textes sont assez sombres, j'ai incarné une forme de légèreté que je revendique. La légèreté, c'est tellement, tellement rare, tellement joli. Et cette idée d'en surface, elle lui est venue de cette idée qui pouvait se faire de la personne que j'étais. Et c'était assez drôle de l'incarner comme ça, quoi.
Mais qui êtes-vous derrière la surface, Étienne Dao ? Est-ce qu'il a réussi à percer vos mystères ?
Alors écoutez, j'ai renoncé moi-même à essayer de comprendre. Donc je suis preneur des avis des autres.
Ben merci beaucoup, Étienne D.
Que de temps passé en surface, que à ne pas s'encombrer du temps et des étoiles tombées. Que de temps passé en surface, je me voulais léger, léger, du plaisir sans se retourner. Ce plaisir ne m'allégeait pas, la beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plume, ignorais la stèle et l'enclume. Je balayais mes propres traces, que de temps perdu en surface, que de temps passé en surface, que de temps à ne pas succomber aux spleen et aux étoiles plombées. Que de temps passé en surface, l'éphémère était mon credo, et hier, à la mauvaise place, je n'aimais pas trop mon cerveau, mon corps envahissait l'espace, puis j'ai vu bouger la surface.
Ça vous fait quel effet de réécouter cette chanson que vous avez écrite pour Étienne Dao, Dominique A?
Ben, beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir.
C'est rare, hein,
d'avoir du plaisir en écoutant ça.
Non, d'écrire des chansons pour un autre.
Bah, ça m'arrive, mais c'est vrai que là, c'est parmi celles qui sont les plus saillantes, j'ai envie de dire, pour lesquelles là, c'était vraiment ça a été du sur-mesure pour moi. J'appréhendais de proposer cette chanson à Étienne.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'admiriez? Vous aviez envie de travailler avec lui? Vous vous connaissiez pas ou très peu?
Non, ça s'est fait vraiment sur un sentiment qu'on avait quelque chose à faire ensemble. Moi, j'ai beaucoup écouté le disque avant celui sur lequel est la chanson En Surface, un disque qui s'appelait L'Invitation et qui m'avait un petit peu, j'ai envie de dire, rabiboché avec le répertoire de Dao. Et j'avais
Parce
envie
que
de...
vous étiez fâché.
Non, j'étais pas fâché avec lui, je ne le connaissais pas, mais je ne l'écoutais plus. Et en fait, j'ai redécouvert le riche répertoire d'Étienne Dao avec cet album L'Invitation, qui est sorti en 2008, si je me souviens bien, où il y avait des chansons très, très intimes, comme Boulevard des Capucines, en rapport à son père, et qui m'avaient vraiment, vraiment, vraiment touché. Et je me disais justement, quand il parle de la légèreté qu'il incarnait, justement, j'avais envie de jouer avec cette fausse image, en quelque sorte, qu'il avait lui-même entretenue, mais qui n'était pas pour moi du tout rattachée.
Toujours
à
la fêlure, c'est la fêlure, voilà, qui vous intéresse.
Bah, c'est ce qui est intéressant en général, non, chez les artistes. Sinon, il n'y a pas de raison de s'attarder.
Donc, voilà. Je voudrais qu'on parle aussi du Dominica, qui est un militant associatif et qui essaye de décloisonner la chanson comme art populaire.
Oui, au sein
et
de...
Et qui va dans les grands hangars, vers les plus défavorisés, oui, faire le bar de au nom de la collectivité des chanteurs.
Oui, alors je fais partie d'un collectif...
Sans les caméras.
Oui, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Des Liens, qui est à la base un collectif d'artistes. L'idée, c'est vraiment un engagement local, des petites actions avec des structures sociales en faveur des publics, des structures sociales. Bon, là, en l'occurrence, ces temps-ci, il se passe pas grand-chose. On peut pas faire grand-chose. Il y a une vraie carence, d'ailleurs, hein, un vrai manque.
Il y a beaucoup moins de créations sur le net que lors du premier confinement. Comment vous expliquez cela, vous? On est découragé, on n'a pas le courage des oiseaux.
Je dirais une forme d'abattement et peut-être un peu de colère aussi. Un peu de colère par rapport à certaines décisions qui sont prises. Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes. Puis bon, c'est vrai que le monde de la culture est assez mobilisé là actuellement, mais à juste titre. Moi, c'est vrai que j'aimerais des fois, idéalement, c'est le problème du monde de la culture, c'est toujours les artistes qui parlent au nom des artistes. Ça serait super si, par exemple, je sais pas moi, une boulangère ou un ouvrier, pouvait parler de son rapport à la littérature, à la musique. Mais bon, chacun a sa vie et bien d'autres choses à faire que de prendre position, hein, par rapport à ça. Donc ce sont les artistes en priorité qui se retrouvent à parler de leur activité, de ce monde-là, mais force est de constater qu'il y a un vrai traitement de défaveur actuellement. Et qu'il y a une vraie, une forme de productivisme effréné, qui fait que voilà, ce monde est négligé dans de telles circonstances. Moi, je remets pas du tout en cause les normes sanitaires, le port du masque, etc.
Mais vous comprenez pas pourquoi les librairies sont fermées, les cavistes sont ouverts.
Les disquaires, les salles de spectacle, sachant que ce sont des lieux qui respectent à la lettre les protocoles, qu'il n'y a pas eu, à ma connaissance, de cluster identifié dans ces lieux-là, alors que tous les jours, vous avez des transports en commun bondés au nom, je dirais, du productivisme. Donc, au bout d'un moment, c'est un choix idéologique. Ça n'est plus seulement... ça ne relève plus seulement de la norme sanitaire. C'est un choix idéologique, c'est aussi le choix du tout biologique. Voilà, il y a peut-être d'autres choses à considérer, des facteurs psychologiques aussi, et aussi considérer le besoin d'élévation des gens aussi, surtout dans des circonstances comme ça. Voilà.
Ou la chanson peut être une béquille morale par rapport aux adversités qu'on subit.
Oui, pour le moins, entre autres, je dirais tous les arts, et même il y a pas que les librairies, les disquaires, il y a aussi les médiathèques, il y a aussi des lieux comme ça qui sont très importants en zone rurale par exemple.
Alors il y a des lieux qui souffrent énormément, mais heureusement je crois savoir que les répétitions peuvent s'y produire, ce sont les théâtres, et figurez-vous, vous savez que vous avez des fans, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Mais dans vos fans, vous avez un grand metteur en scène qui, malgré sa jeunesse, a signé déjà des mises en scène mémorables. Je veux parler de Julien Gosselin. Vous êtes là au téléphone, Julien ?
Oui, celui-là.
Bon, vous êtes où, là, en ce moment ? Vous travaillez dans un théâtre ?
Et là, je suis à Calais.
Ah, vous êtes à Calais parce que vous avez un projet de théâtre à Calais.
Oui, exactement.
J'espère qu'il va voir le jour.
Ouais,
et vous êtes dans le même mouvement associatif décentralisé que Dominique A, qui essaye de porter son art vers les plus vulnérables.
Oui, en tout cas, j'espère bien qu'il n'y a pas de schisme, disons, entre la possibilité de faire un art qui soit le plus exigeant possible et puis la possibilité de le montrer à tout le monde, quoi.
Ben, c'est exactement le contraire. C'est ce que disait Jean Villard.
Ouais.
La culture populaire pour tous. Alors, je vous laisse faire votre déclaration d'amour, Julien Gosselin.
Ah non, mais c'est horrible.
Bonsoir. Écoutez, assumez votre côté midinette, là.
Bonsoir, Julien.
Bonsoir. Non, mais là, je suis vraiment comme une midinette, si vous me dites ça, alors.
C'est bien d'être midinette, c'est bien.
Ouais. Non, mais c'est vrai que Dominique A, c'est quelqu'un qui m'accompagne, disons, sans le savoir, depuis toujours. Depuis que je suis adolescent, et ça me touchait beaucoup tout à l'heure de l'entendre dire que les images mentales qu'il convoque dans ses chansons sont pas dans ses chansons, parce que moi, les images mentales que je convoque en écoutant ses chansons, elles sont pas dans ses chansons, justement.
Ah bon, elles sont où, alors?
Je sais pas, c'est des rues, c'est des ambiances, c'est des atmosphères, une certaine température, c'est des moments de la vie. Il y a des chansons, par ailleurs, que j'ai beaucoup de mal à réécouter parfois, et d'ailleurs je me demandais justement si lui avait pas de mal à les chanter parfois, justement pour la même raison.
Oh, si. Ouais. Non, mais c'est très aimable. Je sais que c'est compliqué de. On a failli faire quelque chose ensemble. Hein. On a failli. J'avais été contacté pour faire une. C'était une sorte de rencontre, performance entre musique et voilà, ça s'est pas fait parce que j'étais en pleine tournée, c'était très compliqué, mais ça me ferait plaisir qu'on se rencontre un jour, qu'on échange.
Oui, après moi, j'ai un peu la peur du fan de Johnny, quoi. C'est-à-dire que finalement Johnny soit moins sympa que prévu. Alors je suis
Ouais.
Non, franchement, il est sympa, hein.
Bon, non, c'est vrai que je peux être assez désagréable, hein. Il faut pas le nier.
Non, mais là aussi, on parlait des points communs entre Étienne Daho et vous, Dominica, mais on peut parler des points communs entre Julien Gosselin, qui est plus jeune que vous, excusez-moi.
Oui.
Et vous, parce que Julien, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, il adapte des textes littéraires pour en faire des mises en scène étourdissantes.
Oui,
ça avait commencé avec Houellebecq, ça a continué avec Don DeLillo et ça continue encore en ce moment. Mais d'après ce que je sais, non pas par rapport à des textes, mais par rapport à des films, et c'est sur Kieslowski que vous travaillez en ce moment, Julien Gosselin. Mais donc, vous avez comme source d'imaginaire des espèces d'explosifs artistiques qui ensuite vont nourrir votre propre discipline.
Oui, mais moi je dois dire que même la musique de Dominique A, ou disons, a vraiment constamment nourri mon travail, par des billets d'ailleurs très étranges.
Ah hein. Bon, comment? Parce que vous nous faites pas entendre du Dominique A dans vos spectacles, hein?
Non, c'est vrai. Je sais pas, par exemple, il y a une chose que Dominique A fait souvent dans ses concerts, et que j'ai toujours fait dans mes spectacles, c'est-à-dire que à un moment, souvent quand il chante Le Courage des Oiseaux, il monte très très fort, il arrête tout pendant quelques secondes et il fait redémarrer tout encore plus fort. Et ça, c'est une chose, dans mes premiers spectacles, par exemple, j'étais obsédé par cette idée-là. Je demandais constamment, rythmiquement, aux musiciens et aux acteurs de travailler sur cet endroit-là. Et ça, je sais que ça vient de lui, par exemple. Alors, c'est un détail presque technique, hein, vous voyez, mais j'y pense tout le temps. Je pense tout le temps à ces chansons, tout le temps quand je travaille.
Alors, pourquoi le shutdown? Pourquoi arrêter tout pour reprendre, Dominica?
Oh bah pour le goût des montagnes russes, le goût de la surprise, souvent je fais des chansons qui sont très simples de par leur structure, donc il faut leur donner une dynamique. Donc c'est le travail sur la dynamique en fait.
Donc il y a vraiment une inscription temporelle à l'intérieur du déroulement de chaque chanson.
Oui, mais de façon très intuitive. Hein.
Intuitive. Quand on écoute votre dernier album, on se dit qu'il y a énormément de travail en studio, qu'il y a une matière sonore qui est vraiment terriblement sculptée, et qu'il y a des arrière-chants sonores qui, comme vient de le dire Julien, nous font partir loin.
Mais j'en suis ravi, mais vous me verriez faire, vous seriez peut-être édifié.
Ah bon, parce que vous travaillez dans votre chambre. Ah
ben là, en l'occurrence, ces enregistrements-là ont été faits vraiment de façon domestique.
Vu le confinement.
Oui, contexte oblige. Et
vous voulez dire avec le balai?
Non, le balai n'était pas à portée de main. Non, mais je suis pas quelqu'un de très rigoureux dans le travail, en fait. Donc quand je trouve une piste, je m'y accroche vraiment très fort et je n'écoute que mon taux de enfin ça, je peux pas écouter mon taux d'endorphine, mais il y a cette idée là,
faites confiance,
c'est l'adrénaline qui me guide en fait, c'est je sais que je tiens quelque chose quand je vibre un peu si j'ose dire, et c'est pas c'est très très intuitif, hein, franchement.
Julien Gosselin, est-ce qu'un concert c'est plus érotique et plus porteur d'énergie dans tous les sens du terme qu'une pièce de théâtre?
Ah oui, sans aucune hésitation.
Ah ben voilà, c'est ce que dit Thomas Ostermeyer, qui est aussi un grand metteur en scène, jeune et grand metteur en scène. Est-ce que vous êtes d'accord, Dominica? Est-ce que l'énergie procurée par un concert, avec la communauté que ça implique, avec la libido qui circule dans les deux sens d'ailleurs? Mmh. Et avec cette espèce de communauté qui s'institue,
ouais, mais moi j'ai un petit
corporel, psychique, mental.
J'ai un petit côté frigide, moi.
Ah bon?
Ouais,
j'ai un petit côté. Vous avez pas l'air.
Non, mais je veux dire par là, je tiens pas absolument à créer un.
Ah oui, vous voulez pas qu'on vous touche, vous voulez pas.
Non.
Vous jeter dans le public.
Non, ça.
C'est pas votre genre.
J'aurais peur de me faire mal, surtout. Non, mais. Non, mais c'est plus l'idée d'être, à un moment donné, de parvenir à une forme d'abandon. Et où on se nourrit évidemment de l'énergie que renvoie le public, bien sûr, hein, mais ne pas absolument aller le chercher, proposer et que les gens disposent en fait. Et c'est comme pour un spectacle là, pour le coup, c'est pas histoire, pas de parce que pour faire absolument un lien entre les disciplines, mais je pense que c'est pareil, une pièce de théâtre, il y a un déroulé, il y a un texte, et voilà, que quel que soit le public, la pièce va être jouée telle qu'elle a été travaillée. Et je dirais que le concert, c'est un petit peu pareil. Je suis pas dans un... J'ai une forme d'écriture du concert. Et donc, je me tiens à cette écriture-là. Et idéalement, il y a ces moments d'abandon qui se produisent, qui sont là, pour le coup, peut-être, oui, un petit peu d'échange de fluide entre les gens et moi.
Mais... C'est votre côté breton, l'homme de granit, droit dans ses bottes.
Là, je vous laisse entière responsabilité.
Bon, Julien Gosselin, dernière question très rapide, parce qu'on est en retard. Quand vous disiez tout à l'heure que vous avez été construit par les chansons de Dominica et qu'elles ont nourri et qu'elles nourrissent encore votre imaginaire artistique, vous dites qu'il y en a certaines qui sont très difficiles à réécouter parce qu'elles sont liées à des histoires d'amour, à des histoires d'amitié. Quand vous écoutez Dominika, vous avez envie de marcher dans les rues la nuit après ?
Ah oui, tout le temps. Bah oui. Bah c'est je vous dirai pas lesquelles hein, d'ailleurs, mais il y a des chansons. Enfin, en ce moment, je vais bien. Alors, je réécoute tout. Vous voyez. Mais je sais, par exemple, sur le dernier album, il y en a une qui s'appelle Quand je rentre. Celle-là, elle sera inaudible d'ici 2 ou 3 ans, quoi, c'est certain.
Bon, ben, merci beaucoup, Julien Grosnin. Et puis, j'espère que vous resterez à l'écoute de France Inter, puisque voici Mischka Assayas en personne, qui arrive dans le studio. Oui. Est-ce qu'il a ses chaussures? Non.
Non. J'ai même pas eu le temps d'enlever mes pompes.
Ouais. Ah bon, il a même pas eu le temps. Eh bien, écoutez, vous allez, j'espère, nous faire dévoiler le côté frigide.
Vous êtes toutes bleues.
De Dominika. Ah.
Vous êtes toutes bleues, Laure.
Oui, bah comme Laure bleue, ben oui.
Oui, mais c'est bleue. Rare. C'est rare. Le côté, comment vous dites?
Frigide. Il vient de dire.
Voilà, ah, il fallait écouter, hein, Mischka. Il fallait écouter.
Oui, c'était
mais bon, ça va être les années 80, donc.
Vous avez raison.
Ça va être plus facile.
C'est vrai. On était très frigides. On était des hommes frigides. Oui.
Décidément, dans l'heure bleue, on découvre beaucoup de nouvelles chansons. Et notamment, moi, je n'avais jamais entendu cette très belle chanson signée de Facteur Chevaux, l'autre rive que vous avez choisi pour clore cette première heure avec vous. Merci infiniment pour votre générosité et votre élégance, Dominika.
Merci beaucoup.
Il va falloir être en forme parce que avec les garçons, ça va être plus dur. Vous allez voir, même si vous êtes frigide.
Mais non.
Bon, écoutez, Mischka, on vous retrouvera après le prochain journal de la rédaction. Pour le moment, vous n'avez pas le droit à la parole. Moi, je vous dis que après vous, Mischka, il y aura Laurent Goumard pour Côté Club. Et je voudrais remercier Julien Dumont, qui, comme chaque soir, est à la régie technique avec le sourire derrière son masque. Évidemment, remercier Jean-Baptiste Audibert, Céline Villegas, Alexandra Brouillet, Elodie Royer et, of course, Lilian Alaume. Il est 21h.